VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Journée mondiale des réfugiés, aujourd'hui, nouveau record en 2015 avec 65 300 000 personnes déplacées et réfugiées à cause des conflits et autres fléaux, selon le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le point avec Nathalie Barge.
Dans le monde, on compte 40,8 millions de déplacés, 21,3 millions de réfugiés et 3,2 millions de demandeurs d'asile, pour un total de 65,3 millions de personnes, soit un humain sur 113, a déclaré le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, venu marquer la journée mondiale des réfugiés en Afghanistan. Les Afghans forment le deuxième groupe de réfugiés dans le monde, derrière les Syriens, qui sont près de 5 millions, un nombre en augmentation de 9,7% par rapport à 2014. Les pays africains accueillent 4,41 millions de réfugiés, une progression de 20%, qui proviennent essentiellement de la Somalie, du Soudan du Sud, de la RDC, du Soudan et de la Centrafrique. Et l'Europe arrive juste derrière, avec 4,39 millions de réfugiés, soit une progression de 43%.
Crise au Mali maintenant, l'accord de paix d'Alger connaît un début d'application un an après sa signature, notamment concernant les nouvelles autorités dans le nord du pays. Plus de détails avec le Premier ministre malien Modibo Keïta, qui était en mission à l'ONU à New York la semaine dernière. On l'écoute au micro de Jacques Aristide.
Une fois qu'on aura mis en place les autorités intérimaires, c'est au niveau des collectivités cela. Il faut faire la part des choses. Il y a les autorités administratives et les autorités des collectivités. Les autorités intérimaires, c'est les autorités des collectivités. Le conseil municipal, le conseil régional, le conseil de cercle. Une fois qu'on aura mis ces autorités en place, et la date a été fixée de commun accord, il s'agira maintenant de préparer les prochaines élections prévues pour septembre. Ensuite, il faut préparer le retour des services sociaux de base dans ces régions. Il faut préparer le retour de l'administration dans ces régions. Il faut préparer le retour et le déploiement de l'armée malienne sur l'étendue du territoire du Mali. Voilà les grandes étapes.
Peut-on avoir la paix au Mali sans Iyad Agali?
Je ne réponds pas à cette question.
Pourquoi?
Je réponds à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités. Le Mali assumera les siennes.
Alors, des voix, justement, comme celle de l'Aménocal, pour dire que les Américains ont discuté avec les talibans par le passé, demandent des discussions avec Iyad Agali. Est-ce que le gouvernement a entendu ces appels et que faire, donc, avec cet homme?
Ce que l'Aménocal a dit n'engage que lui. Et nous ne pouvons pas nous associer à tous ceux qui soutiennent le terrorisme. Voilà la vérité.
Vous êtes catégorique.
Absolument. Comment décider de lutter contre le terrorisme? Notre accord a dit, tous ceux qui se démarqueront du terrorisme pourront avoir des entrées et des sorties avec le gouvernement du Mali. Et les mouvements ont été invités à se démarquer du terrorisme. C'est clair dans notre esprit.
Le Premier ministre malien Modibo Keïta à New York. Niger, deux semaines après une attaque par le groupe islamiste nigérian Boko Haram qui a fait au moins 30 morts, la communauté frontalière nigérienne de Bosso est devenue une ville fantôme. Au micro de John Lyndon, Emily Yob, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Difa, décrit la situation sécuritaire précaire sur place.
La situation sécuritaire est assez tendue. Dans la ville, les gens, les commerçants notamment, voient vraiment une différence. Ils voient que les clients sont partis. Qui a généralement plus pour le monde en ville. Le message que les autorités nigériennes essaient de faire passer, c'est que la sécurité a été renforcée, mais la situation sécuritaire demeure vraiment volatile dans la région, parce qu'il y a encore une attaque juste après que le convoi officiel soit passé. Donc il y a vraiment aussi le Boko Haram qui provoque un peu les autorités, en attaquant aussi juste après elle, à montrer que, pour bien montrer que pour installer la parano et pour montrer qu'elle occupe aussi le terrain. Donc c'est un peu un jeu aussi d'influence entre les autorités et Boko Haram pour un peu aussi une guerre psychologique. Les véhicules n'ont pas le droit de circuler le soir entre 19h et 6h du matin.
Emily Yob, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Difa au Niger. Et toujours au Niger, a signalé qu'au moins 3 personnes sont mortes et des milliers de têtes de bétail ont péri après de fortes pluies à Bazagor dans le nord-ouest désertique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant. En Centrafrique, il y a eu des échanges de tirs nourris aujourd'hui au quartier musulman de PK5 à Bangui, la capitale, mais un calme précaire prévaut actuellement. 6 policiers avaient été pris en otage par des hommes armés. Et toujours en RCA, affrontement dans le nord du pays, en particulier les préfectures de Louam et Louam-Pendé, proche de la frontière tchadienne. Des accrochages entre des partisans du MPC, le mouvement patriotique de Centrafrique, et des Peuls armés de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, alliée à d'anciens éléments du chef de guerre tchadien Babalade. Pour plus de détails sur la situation, Félix Yepassi Zembou a joint sur place à Matali, porte-parole du MPC.
Comme la zone est sous notre contrôle, nous avons envoyé en mission des éléments appartenant à notre mouvement pour aller vérifier les faits sur le terrain. Arrivé là-bas, il y avait un clash entre eux et ces derniers qui s'est soldé par un combat dont le bilan s'élevait à 13 morts côté Peul et 2 morts côté notre mouvement MPC-FRC. Et nous avons trouvé en réalité que ces groupes armés qui se réclament de l'UPC, c'est un groupe qui exerce vers Bambari, mais qui en réalité ne devrait pas exercer dans notre zone. Et ces derniers se réclament de ce groupe. Et nous avons vérifié profondément que ce groupe-là, c'est une ancienne rébellion tchadienne qui est en cours de réactivation vers Gondava, qui était leur ancienne base reconnue par tous, où ils se regroupent actuellement. Et il y avait une autre base aussi qui est vers la frontière tchadienne entre Louam, vers Batangafo aussi, et qui aujourd'hui est en évolution. Nos éléments sont convergés aujourd'hui vers Batangafo et le combat est engagé depuis le matin. Nous avons pu déloger ces assaillants de leur base de Batangafo et un de leurs chefs qui est en fuite avec quelques éléments qui sont dans la nature. Et nos éléments sont à la recherche de ces derniers.
Amat Ali, porte-parole du MPC, le mouvement patriotique de Centrafrique. La lutte contre les djihadistes en Afrique du Nord, en Algérie, le gouvernement algérien revendique de nouveaux succès dans ses opérations contre les présumés terroristes opérant dans le sud du pays. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Selon le ministère algérien de la Défense, le bilan des opérations menées dans le sud depuis le 9 juin s'établit aujourd'hui à 17 morts et 4 arrestations parmi les islamistes. De ce nombre, 14 ont été abattus hier dans une région montagneuse située à 80 km de la capitale, Alger. Auparavant, les autorités avaient fait état de 9 morts. Les soldats algériens ont pu également saisir des armes, munitions et explosifs pendant cette opération. Les islamistes armés sont restés actifs en Algérie depuis le début des années 1990, notamment dans l'est et le sud du pays. En 2005, 97% des Algériens avaient approuvé une charte pour la paix et la réconciliation proposée par le gouvernement. Entrée en vigueur en février 2006, elle était censée ramener la paix. Cependant, rien qu'en cette année 2016, au moins 101 islamistes armés ont été tués, selon un bilan officiel cité par l'AFP.
Afghanistan, au moins 23 personnes, dont 14 employés de sécurité népalais, ont été tués dans 3 attentats quasi simultanés à Kaboul, la capitale, et dans le nord-est du pays aujourd'hui. Les premiers de ce type depuis l'annonce du renforcement de l'engagement américain contre les insurgés. Salwa Jafari.
Nous étions un peu loin quand l'explosion a eu lieu. La rue était jonchée de corps. Nous avons tout de suite emmené les victimes à l'hôpital le plus proche.
À l'hôpital, le fils de Amruddin Khan récupère de ses blessures, mais 14 de ses compagnons, des agents de sécurité qui travaillent à l'ambassade canadienne, n'ont pas eu cette chance. Peu après, une autre bombe a explosé au passage d'un convoi transportant un élu provincial. Une personne est morte et 4 autres ont été blessés. Les talibans ont revendiqué les 2 attaques dans la capitale, les premières de cette ampleur depuis le début du Ramadan, le 6 juin. Mais la branche locale de l'organisation État islamique a aussi revendiqué l'attentat. Une moto piégée a également explosé sur un marché de la petite ville de Keshim, dans la province afghane de Badakhshan, faisant au moins 8 morts. Le président Barack Obama a décidé au début du mois de freiner le retrait des troupes américaines. Un contingent de plus de 9000 hommes doit rester dans le pays jusque tard cette année.
Et vous terminez au Kenya. 5 policiers kényans ont été tués ce matin lors de l'attaque de leur convoi dans le nord-est du pays par des hommes armés soupçonnés d'être des islamistes somaliens Shebab. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.